Santé, une chronique libre autour des corps, du soin, des soignants,
soignantes,
des patients,
patientes
et du système de santé. Toucher le cerveau, changer l'esprit. Une promenade radiophonique subjective autour de la psychochirurgie. Deuxième épisode, la lobotomie, de sa mise en orbite au retour sur Terre.
À l'heure actuelle, la psychochirurgie est devenue une chirurgie de fonction, c'est-à-dire qu'on essaye de sectionner des fibres nerveuses situées à l'intérieur du cerveau et lorsque cette section est faite dans un endroit convenable, on arrive à guérir un certain nombre de troubles mentaux. Je dois dire que ces interventions, qui sont des interventions délicates et qui ne sont pas sans risque, ne doivent être faites que lorsque les traitements habituels des troubles mentaux sont restés inefficaces. C'est Egas Modis de Lisbonne qui a créé le terme de psychochirurgie. Il a créé ce terme en décrivant une intervention qu'on appelle la lobotomie, et qui consiste à couper quelques filets blancs, nerveux, qui unissent le lobe frontal avec des noyaux gris qui sont situés à l'intérieur du cerveau.
À la fin du premier volet de ce diptyque consacré à la psychochirurgie, nous venions de rencontrer Egas Moniz. En 1936, ce neuropsychiatre portugais venait de présenter à ses collègues français les premières interventions chirurgicales menées directement sur le cerveau de malades mentaux en vue de les guérir. Il s'agissait de détruire une partie des lobes préfrontaux pour les déconnecter du reste du cerveau et réduire l'agitation des patients. Comme le rappelle le docteur Puech en 1947, dans l'archive sonore que nous venons d'écouter, issue d'une émission diffusée sur France Culture en 2025, Egas Moniz a baptisé son invention psychochirurgie, ou locotomie, avant que le terme de lobotomie ne s'impose. Il pense qu'elle va révolutionner la prise en charge des malades mentaux et est persuadé que l'adhésion des psychiatres français à sa technique va faciliter son acceptation au Portugal et son essor dans le reste du monde. Mais il est accueilli froidement à Paris, et la plupart des médecins qui assistent à sa présentation lui reprochent son côté trop expérimental, empirique, mutilant et irréversible. Face à ces réactions, au lieu de suspendre ses interventions et d'évaluer leur efficacité, il fait l'inverse. Il opère à tour de bras, en s'appuyant sur les quelques cas présentés comme favorables, malgré un très faible recul, comme une preuve tangible que la schizophrénie est bien liée à un trouble organique et qu'il est possible de le corriger. Pour lui, plus la technique va être utilisée et perfectionnée, plus elle se révélera efficace. La seule modification apportée à la méthode initiale est le remplacement de l'alcool, utilisé pour détruire une partie des lobes, par une lame métallique, le locotome, instrument jugé plus précis. Son acharnement finit par porter ses fruits. Et en Europe, des Italiens manifestent un intérêt envers ses travaux. Parmi eux, Fiamberti, un psychiatre qui, en 1937, a l'idée de simplifier la technique en passant par l'orbite, au-dessus de l'œil. En gros, il réalise une anesthésie locale, puis introduit une aiguille guide en soulevant la paupière et en la glissant entre l'arcade et le bulbe oculaire jusqu'au toit de l'orbite. Grâce à quelques petits coups de marteau, il traverse la mince lame osseuse et insère le locotome, qu'il pousse ensuite dans le cerveau pour procéder à la coupe des fibres nerveuses. Par rapport à la technique de Moniz, cette locotomie transorbitaire, comme il la désigne, ne nécessite ni trépanation ni anesthésie générale, et elle est dès lors considérée comme n'étant plus exclusivement accessible aux neurochirurgiens. Cette petite révolution va attirer l'attention d'un neurologue états-unien, Walter Freeman, qu'on a aussi évoqué dans le premier volet. Le chemin le plus court jusqu'au lobe frontal, c'est à travers le plafond orbital. Cette voie, c'est la sienne. Un personnage fascinant, ce Freeman, sur lequel beaucoup de choses ont déjà été dites. Considéré à la fois comme un brillant neurologue, mais aussi comme l'archétype du savant fou, totalement narcissique. Il est un peu à la lobotomie ce que les frères McDonald furent au fast-food. En quelques années, il va révolutionner la technique, la simplifier à l'extrême et contribuer à sa diffusion dans le monde entier. Peu importe les dégâts que cela va causer. Dès 1936, Freeman, donc, qui dirige une grande institution psychiatrique, s'intéresse à l'invention de Moniz. Il faut dire qu'à cette époque, les États-Unis souffrent d'une surpopulation asilaire, avec plus de 400 000 patients internés en 1937, propice à l'expérimentation de tout nouveau traitement qui pourrait remplacer l'internement et les thérapies de choc, seules prises en charge proposées aux malades. Dans le même temps, les grands médias américains réservent un accueil très complaisant à cette nouvelle technique venue d'Europe. Freeman se lance donc sans attendre. Comme il n'est pas chirurgien, il s'appuie sur Waltz, un neurochirurgien qui exerce dans le même hôpital. Ils réalisent leur première intervention en septembre 1936, en utilisant la technique de Moniz avec le locotome. Comme lui d'ailleurs, ils opèrent d'abord une femme. Écoutons sur France Inter l'un de ses assistants raconter cette première opération.
Je me souviens, la patiente était sur la table d'opération. Tout était stérilisé. Le docteur Watts a fait une incision le long de la tête, sur le côté, et il a commencé à percer des trous et à insérer un instrument comme une sorte de spatule épaisse d'un demi-centimètre environ. Le docteur Freeman, lui, se tenait sur un tabouret, 2 mètres plus loin, et il lui disait « bouge par là, va dans ce sens-là ».
Très rapidement, Freeman et Waltz modifient la méthode initiale, dont ils trouvent les résultats décevants. Les trous dans la boîte crânienne sont percés sur le côté au lieu du dessus, avec une simple anesthésie locale. Par rapport à Moniz, ils accentuent encore plus la séparation des lobes du reste du cerveau et rebaptisent leur opération lobotomie. Elle deviendra la méthode de référence la plus utilisée à travers le monde. À ses débuts, la locotomie s'adressait à des malades considérés comme incurables, et en particulier ceux atteints de schizophrénie, pathologie perçue à l'époque comme le grand défi de la psychiatrie. Il est en effet plus difficile à ce moment de justifier le recours à une technique irréversible contre des maladies comme certaines dépressions ou mélancolies, qui semblent pouvoir être guéries par les traitements classiques. Pourtant, cet argumentaire ne va pas tenir longtemps. Et comme l'explique Carlos Parada dans son ouvrage « Toucher le cerveau, changer l'esprit », lorsqu'il s'empare de la méthode, Freeman et Waltz considèrent que son efficacité repose essentiellement sur la diminution de la tension émotionnelle des malades, indépendamment du diagnostic posé. Là où Moniz a fait preuve d'une relative retenue, eux vont élargir les indications à toutes les personnes qui sont un tant soit peu mélancoliques, anxieuses ou dépressives, ou jugées comme telles par leur entourage. Ils défendent l'idée que la déconnexion des lobes préfrontaux du reste du cerveau permet une meilleure adaptation sociale des malades, sans affecter outre mesure les autres fonctions cognitives et émotionnelles. L'accueil favorable qu'ils reçoivent, le livre que Freeman publie à destination du grand public, ainsi que la situation asilaire, leur ouvre un boulevard, et le nombre d'interventions ne va cesser d'augmenter. Ils opèrent des personnes qui souffrent effectivement de troubles mentaux très lourds et handicapants, mais aussi des personnes dont le seul défaut est leur inadaptation sociale, ou du moins leur inadaptation aux règles qui régissent la société de l'époque. Mais au fait, c'est quoi une lobotomie réussie ?
Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?
Affaire sensible sur France Inter en 2024.
En témoigne cette archive de la RTF, dans laquelle le chirurgien François Audy mentionne les avantages de la lobotomie. Nous sommes en 1956.
Beaucoup de malades ont été lobotomisés, qui sont incapables de prendre la décision eux-mêmes. On est obligé de demander à leur tuteur ou à leur famille. Et beaucoup de malades ne savent pas qu'ils ont été opérés. Cette opération permet, si on l'élargit, de toucher des centres importants comme le centre de l'initiative, par exemple.
Ce qui fait qu'on peut transformer à leur insu un certain nombre de personnes.
Ah, évidemment, on peut les rendre tout à fait soumis, on peut les rendre tout à fait aimables. Évidemment, on est un peu impressionné lorsque l'on voit combien il est facile de rendre les gens obéissants et condescendants.
Un des exemples les plus célèbres de la réadaptation sociale par la lobotomie est celui de Rosemary Kennedy. Souffrant probablement d'un léger retard intellectuel, elle est surtout jugée trop volage et son père estime que son comportement risque de porter préjudice à la carrière politique de ses frères, John, le futur JFK, et Robert. Aussi, en 1941, alors qu'elle n'a que 23 ans, il l'a fait lobotomiser contre son gré par Waltz et Freeman. L'opération est une catastrophe et elle passera le reste de sa vie internée, dans un état végétatif. Ironie de l'histoire, JFK finira lui aussi lobotomisé à distance par son assassin. L'échec de cette opération ne dissuade pas Freeman de continuer à opérer, bien au contraire. Afin de répondre à la demande sans cesse croissante, il cherche une technique plus simple et plus rapide, et surtout qu'il peut réaliser lui-même sans l'aide d'un chirurgien. Il est alors vent de la méthode transorbitaire de Fiamberti, qu'il va simplifier encore plus. Au lieu de perdre du temps à anesthésier les patientes et les patients, il les soumet à une série d'électrochocs. Il remplace aussi le locotome par un orbitoclaste, instrument directement inspiré d'un pic à glace, véridique. En moins de 15 minutes, les malades sont assommés par les électrochocs, Freeman insère son pic sous la paupière, perce le sommet de l'orbite avec quelques coups de marteau, et en 2-3 mouvements d'essuie-glace aléatoires, il sectionne le maximum de fibres entre les lobes préfrontaux et le reste du cerveau. Cette technique est mise en œuvre dès 1946, d'abord sur une femme, bien évidemment. Il est maintenant possible de lobotomiser les gens à la chaîne et un peu n'importe où. C'en est trop pour Waltz qui rompt leur collaboration, désapprouvant la banalisation d'une opération aussi lourde de conséquences. Désormais, Freeman est en roue libre, c'est le cas de le dire. Il opère maintenant seul, en dehors des salles d'opération et dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Pour diffuser la bonne parole et sa technique auprès du public le plus large, il parcourt le pays à bord d'une véritable lobotomobile. Et on estime qu'il a réalisé ou supervisé lui-même près de 3400 lobotomies. Les images de l'époque sont saisissantes. On le voit en blouse à manches courtes, avec son pic et son marteau à bout de bras, entouré de journalistes et autres curieux.
Avec sa lobotomobile, comme il l'appelle, il s'arrête de village en village pour proposer à qui le souhaite, et pour la somme de $25, une petite intervention. Ça vous dit ? Vous êtes dépressive ? Vous souffrez d'anxiété, de migraine ? Vous avez peut-être besoin d'une lobotomie. Voilà le type d'encart publicitaire que l'on pouvait trouver dans les journaux pour vanter les mérites de son intervention auprès des femmes qui constituent toujours le gros bataillon des cobayes.
Lui aussi photographie ou filme ses patients, qui sont souvent des patientes, avant et après l'opération, avec des commentaires du style « va mieux, peut s'occuper de sa maison », comme seule preuve de sa réussite. La lobotomie transorbitaire pratiquée par Freeman sera très peu utilisée dans d'autres pays. Mais on estime aujourd'hui qu'aux États-Unis, près de 40 000 personnes ont été lobotomisées, dont 15% seraient décédées des suites de l'opération. En l'absence de registre ou de suivi systématisé, ce n'est que tardivement que l'on mesurera l'ampleur des drames provoqués par la lobotomie transorbitaire. Au fil du temps, pourtant, la lobotomie devient de plus en plus controversée en raison de sa faible efficacité et de ses effets secondaires graves, tels que des changements de personnalité, une perte de motivation, une apathie ou encore des complications physiques. Effet que Freeman aura toute sa vie minimisé. En parallèle, l'apparition des premiers médicaments pour le traitement des maladies mentales au milieu des années 50 provoque un fort recul de la pratique. Rejeté de la communauté médicale de la côte Est, Freeman s'installe en Californie et recherche de nouvelles catégories de patients à opérer, y compris des mères de famille dépressives ou des enfants hyperactifs. En 1967, il opère pour la troisième fois une même patiente qui décède 3 jours plus tard d'une hémorragie intracrânienne. Pour cette raison, il est privé du droit d'exercer. Il continue cependant à parcourir le pays pour rendre visite à ses anciens patients, jusqu'à sa mort d'un cancer en 1972. Malgré ses dérives, le développement et la progression fulgurante et très médiatisée de la lobotomie aux États-Unis contribuent à asseoir la notoriété de la méthode. La consécration a lieu en 1948, lors du premier congrès international de psychochirurgie, à Lisbonne, présidé par Moniz, avec Freeman comme secrétaire général. Tout est mis en œuvre pour convertir les médecins qui résistent encore, à grand renfort de conférences, de films et même de lobotomies réalisées sur place. C'est un succès, et l'année suivante, à peine 14 ans après son invention, le prix Nobel de médecine est attribué à Moniz. Après les États-Unis, la technique se développe rapidement dans d'autres pays, même s'il est difficile d'en trouver une liste exhaustive. Brésil, Japon, Royaume-Uni, Colombie, Inde ou encore Turquie. Citons le cas du Danemark, qui entre 1939 et 1983 est le pays ayant pratiqué le plus de lobotomie par rapport à sa population, en particulier sur des enfants souffrant de handicaps mentaux. Autre cas particulier, celui de l'URSS, qui interdit la lobotomie dès 1950, et ce jusqu'en 1982. La France n'est pas en reste. À ses débuts, on en a déjà parlé, la technique est d'abord rejetée par les psychiatres, qui préfèrent les thérapies de choc. Pourtant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays découvre l'extension considérable de la lobotomie dans les pays anglo-saxons et les médecins adoptent à leur tour la psychochirurgie. La technique sera utilisée sur des centaines de patientes et patients, avec quelques évolutions, au moins jusque dans les années 80.
Dans la télé, ils te charmisent comme une bête. Oh, les psychiatres policiers viennent porter les quantités. Tu peux crier, tu peux pleurer. Il y a des murs pour t'écouter. Parler en français, tu peux pas être oublié. Parler en français, ma pensée rectifiée. Parler en français, ma tête a explosé. Parler en français, tout est l'exposité. Merci. Au pavillon des oubliés, ça sent la merde et le vomi. Un pauvre gars lobotomisé, tape dans ses mains et dans sa piste. Un autre juste déconnecté, prostré sans mots, reste accroupi. Ici vous êtes bien abusif, quartier des crimes thérapeutiques. Parlez en français, docteur médical. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électro-canibal. Parlez en français, la mort me sent brutal. On se n'est pas en Thaïlande, il y a de quoi avoir les glandes. Au pavillon des oubliés, des malades ont des chiens de pied. Alors messieurs les piscopies, qu'attendez-vous pour dénoncer? Vous qui voulez de l'exotisme, l'enfer est là sous notre nez. Pour le reste, si pour vous c'est pas de la torture, alors Pinochet est une fée. C'est vrai qu'ici y a des ordures qui finissent par dire des butées.
Comme on l'a vu, la lobotomie a été développée pour essayer d'apporter une réponse à des personnes atteintes de maladies mentales sévères, considérées comme très invalidantes et résistantes au traitement de l'époque. Pourtant, comme on a commencé à l'évoquer, cette technique a aussi rapidement été utilisée pour normaliser des comportements considérés comme déviants. Ainsi, une enquête du Wall Street Journal, publiée en 2013, a révélé qu'aux États-Unis, près de 2000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui souffraient pour beaucoup de stress post-traumatique, ont été purement et simplement lobotomisés pour pouvoir être renvoyés chez eux et, pour les moins détruits psychiquement, à l'usine. Mais il y a pire encore. Dans son livre « Mon vrai nom est Elisabeth », Adèle Lyon retrace l'histoire de son arrière-grand-mère, lobotomisée en France dans les années 50 à la demande de son mari, après un soi-disant diagnostic de schizophrénie. Son enquête explore les violences de la psychiatrie et comment elles ont été utilisées contre les femmes qui refusaient la vie qui leur était imposée. Nombreuses grossesses non désirées, cantonnement aux tâches domestiques, violences sexuelles conjugales. Comme elle l'explique sur France Culture en 2025, l'horreur de la lobotomie ne réside pas uniquement dans son caractère irréversible, mutilant, mais plutôt dans la façon somme toute banale, avec laquelle elle a été utilisée comme un prolongement médical des violences familiales, conjugales et sociétales faites aux femmes.
Vous parlez d'un récit horrifique, je suis presque un peu embêtée parce que justement, en m'intéressant à l'histoire de la lobotomie, ce que je découvre, c'est un récit horrifique avec un personnage notamment comme Walter Freeman, qui est l'espèce de caricature de savant fou, complètement maléfique, épouvantable, puis des images cinématographiques comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, enfin des choses qui justement vont du côté de l'horrifique. Et tout mon travail de recherche a consisté à comprendre et ensuite à démontrer que ce type d'opération n'était pas de l'horreur, mais était une prolongation de violences familiales ou sociales par le biais de la médecine. Et donc du coup, je pense qu'il faut le comprendre à l'inverse, comme quelque chose de banal, mais pas forcément au sens où c'était hyper courant, mais plutôt au sens où on pouvait banalement en venir à utiliser ce type d'opération.
Un autre exemple édifiant nous est rapporté dans le documentaire Anna Rosa, de la réalisatrice colombienne Catalina Villar. Dans ce film saisissant, elle raconte comment elle découvre que sa grand-mère a été lobotomisée, pour des motifs là aussi tout sauf médicaux. comme elle le rapporte dans des entretiens donnés à RFI et Mediapart. En lisant les histoires cliniques, elle s'est rendue compte que la plupart des hommes qui étaient amenés à l'asile par la police l'étaient parce qu'ils avaient tenu des propos politiques dérangeants ou qu'ils s'étaient rendus coupables de violences ou de troubles à l'ordre public. Les femmes, en revanche, étaient pratiquement toujours internées sur demande familiale. Et cette initiative était toujours prise par un homme, le père, le frère ou le plus souvent le conjoint. Les raisons étaient souvent des choses qui ne fonctionnaient pas à la maison. L'expression « panne de loyaux services » figure même dans certains dossiers. Pour une femme qui se révèle par exemple ne pas être une bonne ménagère, ou avec des facteurs aggravants qui ne s'appliquaient pas aux hommes. Elle s'habille mal, elle a déjà 30 ans mais elle n'est pas mariée. Catalina Villard a eu le plus grand mal à accéder aux dossiers médicaux. Mais à Bogota, 84% des comptes rendus de lobotomie qu'elle a pu consulter concernent des femmes. Ce constat terrible ne se limite pas à la Colombie ni aux années 50, loin de là. Revenons en France et écoutons le docteur Louis-Marie Terrier, neurochirurgien au CHU de Tours, présenter les résultats d'une étude publiée en 2017 dans la prestigieuse revue Nature. En fouillant les archives de la Bibliothèque de Santé de Paris, les auteurs ont compilé 1340 cas de lobotomie pratiqués entre 1935 et 1985 en Belgique, France et Suisse. Accrochez-vous au pic à glace, ça décape.
Et durant notre série, on est tombé sur... En répertoriant les 1340 cas, lorsqu'on avait l'information sur le sexe, on s'est rendu compte que 84% des lobotomisés étaient des femmes, ce qui était extrêmement surprenant puisqu'on voit que la majorité des patients qui ont eu une lobotomie dans les années 40 et 50, c'était essentiellement pour des raisons psychiatriques et notamment pour la schizophrénie. Il n'y a pas de prévalence plus importante chez les femmes, et donc ce chiffre était on s'interrogeait beaucoup sur ce chiffre et on se demande si c'est pas justement la condition de la femme à l'époque où elle était considérée comme mineure tout au long de sa vie puisqu'elle passait de la tutelle de ses parents à celle de son mari. Et on se demande si c'est pas justement la condition de la femme à l'époque et la conception qu'on avait de l'image de la femme qui a fait qu'elles étaient plus sujettes à ce genre d'intervention chirurgicale.
Vous avez bien entendu. Là aussi, 84% des personnes opérées étaient des femmes. Le même pourcentage qu'en Colombie. Alors qu'il n'y a aucune preuve d'une surreprésentation des femmes dans les personnes atteintes de troubles mentaux. Tout en prenant quelques précautions oratoires, le docteur Terrier explique bien comment la condition de la femme à l'époque, qui était sous tutelle toute sa vie, a permis ce recours massif à la lobotomie. Pourtant, au fil du temps, la psychochirurgie soulève de plus en plus de controverses dans le corps médical. En parallèle, la découverte au milieu des années 50 de la chlorpromazine, premier médicament neuroleptique, portera un coup d'arrêt au développement de la psychochirurgie. Son efficacité et surtout son caractère réversible lui permettront dès 1954 d'être prescrit très largement, ouvrant la voie à toute une série d'autres molécules. Sans beaucoup de surprises, les neuroleptiques vont être utilisés plus massivement chez les filles que chez les garçons. Dans le même temps, l'opinion publique prend conscience des dérives de la psychochirurgie, notamment grâce au film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milos Forman, qui raconte les déboires d'un homme rebelle et sympathique enfermé à tort dans une institution psychiatrique. Le turbulent héros incarné par Jack Nicholson sera rendu docile et désincarné par les électrochocs puis la lobotomie. Au fil des années, le ton de la presse se montrera aussi de plus en plus critique. La lobotomie sera progressivement abandonnée à partir des années 60, sans pour autant être interdite. On estime aujourd'hui à près de 100 000 le nombre de patients opérés pour des indications comportementales en 25 ans dans le monde. Comme on l'a vu, ces indications ont souvent été mises en avant pour contrôler socialement, plutôt que pour soigner. Et cela s'est appliqué essentiellement à des femmes. La psychochirurgie ablative a connu un timide renouveau dans les années 70, avec des techniques très ciblées et sur des indications extrêmement limitées. Mais elle a aujourd'hui à peu près disparu au profit de la stimulation cérébrale profonde, réversible, dont l'objectif est de stimuler des zones du cerveau à l'aide d'électrodes implantées. Pourtant, son nombre plane encore, avec par exemple des articles qui font état de son utilisation en Russie, en Chine ou encore en Colombie, dans les années 2000-2010, chez des personnes dépendantes à l'héroïne, chez qui les médecins ont détruit une partie du circuit de la récompense. La stimulation cérébrale profonde, qui est aujourd'hui en plein essor, n'est pas à l'abri des mêmes dérives. Et dans son avis rendu en 2002, le Comité consultatif national d'éthique concluait, je cite, que le risque théorique ou le fantasme d'assujettissement de la personne devrait être mis en balance avec la volonté de libérer le patient de l'assujettissement réel qu'induit sur lui la maladie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Allez, santé.
Stop.